Chalim était compté. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui poursuivre notre exploration du livre médiéval. Lors de la dernière émission, nous avions évoqué l'instrument qui permettait d'écrire en quelque sorte et qui avait varié tout au long des temps. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser évidemment à la période qui nous concerne quand on parle de l'histoire de Chali. Hein. Il s'agit bien sûr du Moyen-Âge. Alors, pour essayer d'analyser les écritures, nous avons une spécialité qui s'appelle la paléographie. Hein. Et un paléographe, c'est un savant, on va dire, qui s'intéresse aux écritures sur matériaux souples. Donc, ça sera le parchemin, plus tard, ça sera le papier. Qu'il ne faut pas confondre, attention, avec l'épigraphe, hein, qui, lui, ne s'intéresse à l'écriture que ce qui est noté sur des matériaux durs, hein, gravés dans la pierre, gravés dans le cuivre, etc. Donc, c'est une spécialité tout à fait particulière. Alors, pensons un petit peu à notre façon d'écrire. Bien que nous ayons appris à écrire d'une façon identique, nous avons tous une écriture particulière. Et en général, cette écriture est un peu une carte d'identité et nos proches savent reconnaître notre écriture de celle d'un étranger. Le dessin de l'écriture et la présentation du texte sont aussi fort différents suivant la personne à qui il va s'adresser. Si je fais un brouillon qui est destiné à être jeté ou une série de notes, je ne vais pas utiliser évidemment la même écriture que lorsque je vais établir un document officiel. On peut remarquer que l'écriture n'évolue pas trop dans le cours de la vie, mais elle se modifie néanmoins, surtout selon l'instrument utilisé. On n'écrit pas de la même façon avec un stylo-plume, avec un stylo-bille et pour plaisanterie, je dirais, avec un ordinateur. La qualité et la dimension du support peut faire varier aussi le dessin. Si vous n'avez pas beaucoup de place, vous allez vous mettre à écrire en hauteur, sur les marges, en dessous, en tout petit, etc. Et puis aussi la fantaisie, le souci du beau qui peuvent conduire différemment notre main lorsqu'elle s'exprime sur la page blanche. Ces remarques valent aussi pour tous les manuscrits qui ont été réalisés au Moyen-Âge. Évidemment, ça ne va pas simplifier la tâche du paléographe qui devra anticiper en quelque sorte. Il s'agit là d'un texte d'un scribe qui a l'âge de 20 ans et que celui-là est le même qui ensuite établit un document officiel 30 ans plus tard. Cette évolution de l'écriture, on va la voir aussi, comme je le disais tout à l'heure, en fonction du document lui-même. Il est évident qu'on a une écriture appliquée. Hein, donc le scribe, le moine, a la main posée et il va lever sa plume assez fréquemment pour dessiner d'une façon très précise les lettres. Ceci, c'est pour les chartes, les documents officiels ou pour les livres. Mais il y a aussi par ailleurs une écriture rapide, qu'on appelle une écriture cursive, avec de nombreuses ligatures, c'est-à-dire on accroche les lettres les unes avec les autres. Et ça, on l'utilise bien sûr pour tout ce qui est notes ou documents non officiels. L'écriture du document diplomatique est donc fort différente que l'écriture du livre. Ne serait-ce que la hauteur des hampes, vous savez, c'est des astes, comme on les appelle, ces bâtons verticaux qui se terminent en général par des queues fourchues, eh bien, ils n'auront pas la même taille sur un document officiel que sur une prise de notes. Le système d'abréviation, lui aussi, qui va être utilisé par les scribes, n'échappe pas à la variété d'écriture. Alors, pourquoi des abréviations? Nous aussi, hein, pensez à nos SMS. Hein, on est des rois de l'abréviation. D'ailleurs, parfois, moi, j'avoue que j'ai du mal à comprendre de ce qu'on m'écrit. Mais enfin, ces abréviations ne peuvent fonctionner que si tout le monde est capable, évidemment, d'anticiper le sens, évidemment, qu'elles cachent. Eh bien, pourquoi mettre des abréviations, utiliser des abréviations au Moyen-Âge? Tout simplement parce que le parchemin est très cher. Donc, si vous pouvez réduire l'espace d'écriture, vous faites des économies. Et on va employer ce qu'on appelle des notes tyroniennes. Tyroniennes. Dans l'Antiquité, un certain Tullius Tiro, qui était un esclave de Cicéron, avait inventé des signes comme ça pour remplacer les mots. C'est ce qu'on appelle une espèce une sorte de cryptographie, encore que le terme de cryptographie s'attache plus à masquer le sens de l'écriture dans le sens d'un code secret. Hein. Donc, on va crypter en quelque sorte, comme on peut crypter un message électronique d'ailleurs, on va crypter également en utilisant évidemment un alphabet différent, etc. Là, je dirais plutôt, c'est une pasigraphie. Alors, c'est un mot savant qui désigne, en gros, les signes qu'utilisaient les sténodactylos hein, pour écrire très vite lors d'enregistrement, en quelque sorte. Donc, ces notes tyroniennes, on les retrouve à peu près dans tous les documents à partir du 12e. On a TPM. Alors, je vous épargne le latin, temporium universaliter, stat, status, di dei, divinus. On aura CH qui veut dire chorus. Hein. Et puis, on aura des petits signes, simplement l'oméga qui désigne, par exemple, le titre, etc. Les chiffres vont s'installer au 12e. Et évidemment, je ne peux pas, à la radio, vous expliquer le sens de ces caractères, mais qui, parfois, ressemblent pour moi à des caractères chinois. Hein. C'est, à tout point de vue, ils sont assez complexes, évidemment, à comprendre si vous n'avez pas une table pour pouvoir les traduire. Pour revenir à l'écriture, bon, on va en distinguer quelques classes, bien sûr, on pourrait rentrer dans les détails, mais ce n'est pas le but de notre bavardage aujourd'hui. Disons qu'à partir du 6e siècle, on trouve une écriture mérovingienne. C'est une espèce d'écriture cursive qui correspond à l'ancienne écriture romaine. Une écriture romaine de chancellerie, c'est-à-dire un document officiel. Je dois dire que cette écriture est extrêmement difficile, en tous les cas pour un béotien que je suis, là, à ce niveau-là, à traduire, à comprendre en quelque sorte. Il nous faudra attendre le 9e et le 12e siècle, jusqu'au 12e siècle, pour avoir ce qu'on appelle la minuscule caroline. C'est la minuscule carolingienne, vous avez compris que c'est l'époque de Charlemagne, hein, le Carolus. Et elle est beaucoup plus aisée, elle ressemble un petit peu à notre script. Donc, au niveau de la compréhension de la lettre elle-même, on a beaucoup moins de difficultés. Et puis, cette lettre va se transformer petit à petit. À partir du 13e, on va avoir une forme qu'on va appeler gothique. Alors, on aura une minuscule gothique qu'on appelle la quadrata, qu'utilisent encore d'ailleurs nos amis allemands. Hein. Et puis, on aura une majuscule, les capitales gothiques également. À partir du 15e, un nouvel alphabet, en quelque sorte, va surgir, tout doucement, surgir n'est pas le terme, va s'installer, ça serait plus précis, qui est une forme de minuscule caroline, mais qui ressemble beaucoup plus à notre italique, c'est-à-dire que les caractères sont très serrés les uns à côté des autres. Hein. Et on comprend là aussi que cette écriture a des gros avantages quant à l'espace qui est utilisé, évidemment, par le script. Donc, on fait des économies de parchemin. Passons maintenant à la mise en page. Alors, vous vous souvenez que le parchemin qui vient de la fabrication d'un support à partir de la peau d'un animal, oh, pour nous, en Europe occidentale, bien sûr, il s'agit surtout de peau de mouton. Ce parchemin représente à peu près 1,5 m², pour vous donner une idée de la surface. Hein. Donc, à partir de ce parchemin, on va pouvoir, évidemment, créer des feuilles qu'on va plier une fois, qu'on va plier deux fois, quatre fois, ce qui donnera plus tard le format des livres que nous connaissons. Hein. Autrement dit, la différence entre un in quarto, c'est-à-dire un in quatre, comme c'est marqué sur l'ouvrage, ou un in huit, ça dépend in huit, c'est ce que j'ai pas des esquimaux là, un in huit, in octo si vous préférez, ça dépend du nombre de fois où on plie la page, et évidemment plus on la plie, plus le livre va être petit, mais aussi plus on va pouvoir gagner là aussi de l'espace, on fera sur la même surface beaucoup plus d'impression. Donc alors on va partir d'une chose très simple, le copiste qui va préparer sa feuille en deux parties, hein, donc il va la plier en deux. Nous allons nous intéresser à la page de gauche. Ce manuscrit, il faut le préparer parce qu'il ne s'agit pas que la page 2 ne soit pas organisée comme la page 3, comme la page 4. Donc, il va falloir essayer de mettre tout ça en règle et on va procéder à ce qu'on appelle la piqûre. C'est-à-dire qu'on va mettre les feuilles, enfin, le terme feuille, vous m'entendez bien, il s'agit là des différents parchemins les uns sur les autres. Et on va piquer toutes les feuilles en même temps. de telle façon, évidemment, que toutes les pages par la suite seront organisées de la même façon. Et si vous regardez bien dans les musées ou dans les bibliothèques des parchemins, très souvent, vous pouvez remarquer ces traces de piqûres aux quatre coins. Et ça demande quand même un savant calcul, parce que dans un premier temps, il faudra que la pagination, d'abord, soit décidée. Eh bien, au Moyen-Âge, comme d'ailleurs à l'imprimerie nationale, il ne faut pas croire qu'on met le texte au milieu de la page. Le texte est rarement placé au milieu de la page pour des raisons esthétiques. On a remarqué qu'en général, on va l'appeler le pavé. Hein, tout ce qui est écrit, on appelle ça le pavé. Le pavé, s'il est en 1, la marge est 1 en haut, il sera 2 à gauche et 3 en bas et 4 à droite. C'est-à-dire qu'il est complètement décalé par rapport à la page. Et les piqûres vont tenir compte, évidemment, de cela. On pourra aussi, en même temps, procéder à la réglure. Il s'agit d'écrire droit. Hein, et les moines, comme nous-mêmes, on n'a pas forcément la main qui tient la ligne droite pour écrire de gauche à droite. Donc, on va tracer des lignes, comme nous le faisions sur des feuilles de dessin. Après, nous, comme élèves, on a eu la chance d'avoir des papiers déjà réglés. Hein. Des petits carreaux, des grands carreaux hein, qu'il fallait acheter à la librairie à la rentrée des classes. Vous vous souvenez, hein. Leur espacement, évidemment, va dépendre aussi des tailles de lettres qu'on va utiliser. On va aussi prévoir sur cette page toute l'histoire du manuscrit. Il va falloir prévoir donc les lignes, où on va aligner au sens propre les lettres les unes à côté des autres. Mais il faut prévoir aussi l'endroit où on va mettre les titres de chapitres, ce qu'on appelle d'une façon générale la rubrique. Or, rubrique, c'est une petite histoire amusante. La rubrique, c'était tout simplement parce qu'en général, dans un livre, tout ce qui était les sous-titres, en quelque sorte, était écrit en rouge. Rubis, donc rubrique. Hein, vous voyez l'origine de ces termes. Il faut prévoir aussi les lettres enluminées. Il arrive souvent que l'initiale soit enluminée. Et puis aussi, il va falloir prévoir l'enluminure. Là, c'est un véritable tableau qui va s'intégrer au texte, évidemment, va l'illustrer, le compléter. Je ferai une petite remarque, d'ailleurs, à propos de ces enluminures. Au XIXe siècle, et encore au début du XXe, on avait l'habitude désastreuse de découper les enluminures comme des œuvres d'art, comme on pourrait le faire d'un tableau, et puis de les accrocher ou de les conserver comme telles, en les séparant complètement du texte. C'est comme si vous découpiez les dessins d'une BD sans vous occuper des bulles. Il y a quand même une relation entre les deux. Je serais amené à parler de la BD, parce qu'effectivement, la naissance du BD ressemble un peu à la naissance d'un manuscrit. Et donc, cette manie a fait qu'on a... On a altéré définitivement des manuscrits assez extraordinaires parce qu'on a voulu n'en garder que l'enluminure, que le tableau le plus riche, évidemment, qui était installé. Alors, cette réglure, comment on l'effectue? Vous savez que le terme pour tracer les lignes, ce terme de ligne provient tout simplement de la matière qu'on utilisait, c'est-à-dire un fil de lin, qui va donner donc le terme de ligne. Alors au début, on traçait cette ligne, un fil de lin tendu, avec, il fallait être au moins deux, je ne sais pas comment on fait, ou on doit avoir une troisième main, enfin je n'ai pas le détail, personne ne m'en a parlé. On traçait cette ligne, soit avec une espèce de petit scalpel, c'est-à-dire on faisait un petit sillon sur le parchemin, hein, soit on prenait ce qu'on utilisera beaucoup plus tard, et le plus souvent, une mine de plomb, crayon de papier en quelque sorte, hein. Donc, on va tracer ces crayons de papier, on va tracer ces lignes au crayon de papier. Et on verra aussi qu'il faut que ces lignes soient équidistantes, c'est-à-dire que la première ligne est à la même hauteur que la deuxième, la troisième. Alors, soit on mesurait, mais à l'époque, il n'y a pas de mètres, de millimètres, de centimètres, soit on utilisait un certain nombre d'instruments assez originaux que nous allons bientôt évoquer. Eh bien, tout simplement une molette, c'est-à-dire un disque, et sur ce disque il y a des petits picots qui sont à égale distance. Hein. Et c'est un peu comme dans le potager, vous savez, il y a des semoirs comme ça qui délivrent régulièrement de la graine d'une façon régulière. Et bien là, ces petits picots, on va les faire descendre sur la ligne verticale et on obtiendra ainsi des marques qui seront équidistantes et que l'on va réunir par un trait de crayon de plomb. Vous remarquerez que sur les manuscrits médiévaux, eh bien, les lettres ne sont pas posées en quelque sorte sur la ligne. Nous posions avec notre porte-plume les lettres sur la ligne, hein, d'une façon très respectueuse. Dans les manuscrits, hein, je vous rappelle que manuscrit, ça se fait à la main, hein, manus. Hein. Sur ces manuscrits, les lettres sont au-dessus. Alors, on a deux raisons, à vous de choisir celle qui vous plaît le plus. La première, c'est tout simplement, pour des raisons esthétiques, c'est plus joli de voir une lettre séparée de la ligne qui est marquée. Mais je pense qu'il y a une autre raison qui est plutôt historique, c'est-à-dire que dans un premier temps, comme je le disais la dernière fois, eh bien, tout simplement, on traçait cette ligne avec un scalpel, c'est-à-dire on créait une espèce de sillon en creux sur le parchemin ou dans le parchemin. Ce qui fait que le scribe, si jamais il dérapait un peu et que sa plume tombait dans le fossé, en quelque sorte, eh bien, c'était la tâche qui arrivait et l'encre filait comme ça dans le fossé. Et il fallait à tout prix, évidemment, éviter cet inconvénient. Alors, notre page, donc, a été à peu près installée. On a notre pavé d'écriture, on a l'espacement des lignes, mais cette page va s'intégrer par la suite dans un livre. Donc, il va falloir aussi, dans un premier temps, je le disais, réserver la place pour l'enluminure, pour la lettre enluminure, pour la rubrique, parce que c'est un travail qui est très séparé. Le scribe, lui, il s'occupe des lettres. Et puis, il y a le rubricateur qui va s'occuper que des chapitres. Et puis, les enlumineurs, des spécialistes des lettres qui ne font que ça. Donc, il faut tout prévoir. Et il faut prévoir aussi la page suivante. C'est pour ça que très souvent, sur les manuscrits, il y a ce qu'on appelle une réclame, par exemple. C'est-à-dire qu'en bas de la dernière page d'un cahier, le copiste va écrire le début du mot du cahier suivant. Hein, c'est-à-dire qu'on aura la même chose en bas et du dernier cahier, si je m'exprime bien, et en haut du deuxième. Suivant. Ce qui fait qu'on ne se trompera pas entre les deux. C'est ce qu'on appelle donc une réclame. Je ne sais pas si effectivement notre réclame à nous a quelque chose à voir avec cette tradition. C'est vrai qu'elle est souvent répétitive. Hein. Il y a aussi la signature. En général, elle est inscrite au bas de la dernière page du cahier. Bon, rien n'a bien changé. Lorsqu'on a terminé notre lettre, on la signe. Et puis, il y a le colophon. Le colophon qui en grec désigne ce qui est terminé, l'achèvement, etc. Ce colophon, c'est une indication en général qui nous renseigne sur le livre, hein, qui a été ainsi fabriqué. Mais c'est aussi, alors pour nous c'est un régal, c'est l'occasion de lire le jugement du copiste. Il a le droit en quelque sorte de dire un peu comment ils sont ressentis, comme on dirait de nos jours. Hein. Alors ça peut être des colophons très simples, du genre... Albertus scripsit, ça veut dire tout simplement Albert a écrit ce livre. Ou bien Albertus finem fecit, c'est-à-dire Albert s'est arrêté. Ou bien, alors, bon, je vous passe le latin, ce scribe est magnifique. Il manquait pas, évidemment, de modestie. On en trouve d'autres à propos du contenu. N'oublie pas de garder en mémoire à l'art. Et il y en a un que j'aime beaucoup. Il s'adresse en général aux novices. Qui ne sait pas écrire pense que ce n'est pas un travail, mais n'oublie pas que trois doigts écrivent, et c'est tout le corps, cependant, qui fatigue. Et ça, on le retrouve sous des formes un peu différentes dans les manuscrits médiévaux. Donc, notre organisation est en fait les marges, la mise en colonne. Et oui, les gens du Moyen-Âge, les scribes, avaient déjà remarqué que la lecture était beaucoup plus facile en colonne, que lorsqu'on a un pavé complet. Bah, regardez l'organisation des journaux. Hein. Vous avez effectivement cette organisation en colonne qui a été conservée. Hein. Donc les marges, je ne reviens pas dessus, hein, vous vous souvenez. Je crois que j'ai dit une ânerie, donc je préfère revenir dessus. C'est du côté de la reliure qui est 1, la marge supérieure est 2. Donc du côté de la reliure, vous voyez ce que je veux dire, là où la page est accrochée. Hein. Donc c'est, admettons, on va dire 1. En haut, c'est 2. À droite, c'est 3. Et en bas, c'est 4. Je préfère le redire de cette façon, car je pense avoir été trop péremptoire. En tous les cas, je me suis trompé dans ma première affirmation. Alors, les colonnes. Ne vous attendez pas à avoir des colonnes égales, comme dans nos journaux la plupart du temps. Au contraire, vous avez remarqué là aussi, pour des facilités en général de lecture, que ces colonnes vont en ordre croissant. C'est-à-dire que la colonne de gauche est relativement réduite. J'ai devant moi une photo d'un manuscrit. La colonne centrale, de taille moyenne, mais c'est elle qui, en général, va présenter les lettrines, historiées, enfin, etc. Et la colonne de droite, elle est beaucoup plus large. Et ça, on va le trouver, cette répartition, cette mise en page, en quelque sorte, on va la retrouver dans à peu près tous les manuscrits médiévaux. Alors, pour les pigments, bien sûr, je n'en reviens pas. J'ai déjà évoqué la dernière fois la nature des pigments utilisés pour l'écriture. Ça peut être des pigments qu'on trouve facilement, la suie, hein, par exemple, pour l'écriture en noir, ou la noix gallique. La noix gallique, c'est un parasite du chêne qu'on va broyer et qui va donner un noir assez profond, assez proche de ce qu'on appelle, nous, langue de Chine. Et on mélange ça, évidemment, avec différents liants à base d'œufs ou à base de résine. Sur ce livre, contrairement à ce que nous faisons, enfin, moi, j'aime pas trop le faire, en tous les cas, on va pouvoir écrire. On va faire ce qu'on appelle des gloses, hein, c'est-à-dire qu'on va inscrire des notices explicatives sur un mot ou sur le sens d'un texte, etc. Et la place de ces gloses, elle aussi, est déterminée selon qu'elle se trouve dans la marge de gauche, au centre, en bas, à droite, etc. Donc là aussi, c'est assez encadré en quelque sorte. Voilà pour cette mise en page, mais par la suite, bien sûr, il va falloir déterminer le travail de chacun. Alors pour le copiste, je ne reviens pas dessus, je pense que vous avez bien compris qu'il a choisi sa plume de la façon la plus méticuleuse possible, la plume de signe étant évidemment extrêmement intéressante. Ceci dit, n'oubliez pas qu'on ne va pas martyriser les signes. Les signes ont une mue annuelle qui fait qu'ils perdent toute leur plume, dont les rémiges qu'on va récupérer, les rémiges qui sont les dernières plumes les plus grandes qui se trouvent à l'extrémité des ailes, et qu'on va récupérer pour évidemment les transformer en porte-plume, oui, en quelque sorte, disons, pour écrire, ça sera plus simple. Donc, au fur et à mesure que ce manuscrit va prendre de l'ampleur, on va voir donc un métier tout à fait important se mettre en place, c'est le travail de l'enlumineur. On peut dire que c'est surtout à partir du 12e que le travail de l'enlumineur va se mettre en place avec des ateliers. Et là, je m'arrête un petit peu à propos de ces enlumineurs, parce qu'il est évident qu'on ne va pas enluminer de la même façon un livre qui est destiné à des religieux, un livre destiné à des professeurs, et d'une façon générale à des laïcs, c'est-à-dire un évêque, un roi, un prince, qui lui est un véritable mécène. Il ne faut pas croire que le livre soit un objet courant. C'est un véritable mécénat qui doit se mettre en place pour pouvoir fabriquer un livre. Ça coûte une fortune. Et donc, très souvent, jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, vous avez des préfaces extraordinaires. On vous dit ce livre est dédié à tel personnage, tel prince, tel roi, magnifique, extraordinaire, généreux. Tout simplement, on tend la main pour qu'il devienne le mécène afin de pouvoir créer le livre. Et puis, les livres qui sont destinés au roi, vous pensez bien que les couvertures, ce qu'on appelle les AIS, sont décorées d'une façon somptueuse. Parfois, on dirait somptuaire, peut-être de trop. Et là aussi, on va y trouver aussi bien des pierres précieuses, l'utilisation de la feuille d'or, enfin, tout ce qui montre évidemment la richesse de celui qui va posséder le livre. N'oubliez pas non plus que très souvent, ces livres, enfin, les couvertures de ce livre sont ornées de ce qu'on appelle quatre boulons, c'est-à-dire quatre proéminences qui se trouvent aux quatre coins, qui font que le livre, quand il est posé à plat sur une étagère, ne pose pas sur le bois, sur la pierre, par exemple, et la circulation de l'air pouvant se faire, il ne risque pas d'être altéré par les conditions météorologiques. Donc, ce livre est également fermé. On peut le faire d'une façon, très directive, c'est-à-dire que s'il n'y a pas la clé, vous ne pouvez pas lire. Et ce livre, très souvent, s'il est remis vers le public, il est attaché. Les armariums, c'est-à-dire dans les armoires, Les livres sont attachés par des chaînes, tout simplement parce que c'est un objet de valeur. On n'a pas envie que les gens dérobent ces livres. Alors, la mise en lumière, puisque c'est bien ça, l'enluminure, va petit à petit s'imposer et l'enluminure va avoir une taille de plus en plus grande au point qu'on pourra dire qu'on est devant un véritable tableau dans lequel, d'ailleurs, de nombreux artistes vont, au moins jusqu'à la Renaissance, vont participer.